Chapitre 8. Après les angoisses de la nuit, Marichette respira. Son cousin ne la renvoyait point, le sort de Psyte était assuré. C'était là quelque chose de considérable, la vie pour elle et pour son chien. Quand sa mère lui parlait de « mon cousin Simon », elle n'avait certainement point imaginé que l'accueil que lui ferait ce fameux cousin, dont elle avait les oreilles pleines, serait ce qu'il avait été. Mais après cet accueil qu'il avait jeté dans de si cruelles appréhensions, c'était un grand soulagement que la situation se présentât sous ce jour. Sans doute, la vie ne serait pas ce que sa mère avait cru et lui avait dit. Telle qu'elle avait vu son cousin, elle ne devait pas croire qu'il la traitât jamais comme sa fille, ni même qu'il eût jamais pour elle de la tendresse ou simplement de l'affection. Elle ne tiendrait pas sa maison, il ne la marierait pas. Mais elle ne serait pas seule sur la terre. Si, pour le cœur, elle n'avait ni parents ni appui, du moins, aux yeux du monde, ne serait-elle pas la misérable et ridicule créature qu'est l'orpheline qui n'a ni père, ni mère, ni fortune. La réalité pouvait être lamentable, l'apparence en tout cas serait sauvée. Et puis, peut-être ne serait-elle pas aussi lamentable que l'arrivée semblait le faire craindre. Elle s'appliquerait au travail et son cousin, satisfait d'elle, s'adoucirait sans doute. Ce qu'il voudrait qu'elle fût, elle le serait. Ce qu'il voudrait qu'elle fît, elle le ferait. Rien ne la rebuterait, ni la peine, ni la fatigue. À défaut d'autres qualités, il trouverait toujours la docilité et la soumission. Cela, à l'avance, elle pouvait le promettre. Elle ne devait donc pas désespérer et s'abandonner aux lugubres pensées de sa nuit terrible. Elle avait cru tout perdu et voilà que tout s'arrangeait, sinon pour le mieux, tout au moins d'une façon supportable. Son chien même, qu'elle avait vu mort, trouvait des amis. Il avait l'air très bon, ce jeune homme. La façon dont il lui était venu en aide indiquait un brave cœur et il n'y avait qu'à rencontrer son regard sympathique pour en être certain. Avec cela, simple, franc et en même temps discret. Jamais elle n'oublierait le service qu'il lui avait rendu et comment il le lui avait rendu. Quand son cousin rentra pour déjeuner, il commença par examiner le travail qu'il lui avait donné en homme qui pouvait l'apprécier avec compétence. « Allons, ce n'est pas mal, dit-il. Si tu es appliquée et soigneuse, je pense que nous pourrons marcher ensemble. » C'était là un bien mince encouragement, cependant il la toucha. « Je ferai tout ce que je pourrai pour vous satisfaire, » dit-elle. « Tu dois comprendre qu'il est juste que tu gagnes ton pain. »« Oui, mon cousin, et vous pouvez être assuré que je ne l'oublierai pas. » »« Nous verrons cela à l'ouvrage. » Ils passèrent dans la salle à manger, où le déjeuner était servi sur la grande table dont le tapis était relevé. Malgré la fortune qu'il avait acquise et malgré ses prétentions à devenir un monsieur, Belloc était pour bien des choses le rude paysan de ses années de jeunesse et de misère, et particulièrement pour sa table, qui était celle d'un paysan. Un fricot lui suffisait, et encore mangeait-il plus de pain que de fricot. C'était seulement quand il traitait monsieur le sous-préfet ou des autorités considérables qu'il montrait des capacités de gourmand en prenant sa large part du dîner plantureux qu'on apportait de l'hôtel des Vaches Noires, ou bien encore quand il était, pour ses affaires, obligé d'inviter quelques clients au restaurant. C'était alors des ripailles dont on parlait dans le pays, en énumérant avec autant d'admiration que d'envie ce qui avait été bu et mangé. Extraordinaire en tout, Belloc, un rude gars, et qui, à table comme dans les affaires, avait toujours le dessus. Ce matin-là, le fricot était le plat de veau au pois qui avait déjà paru la veille et que Divine avait fait réchauffer en y ajoutant tout simplement un verre d'eau pour l'empêcher de brûler. Belloc servit Marichette largement, puis il se mit à manger sans parler, en avalant les morceaux coup sur coup, en homme qui ne pense qu'à satisfaire un besoin. Alors elle se dépêcha aussi, de peur d'être en retard. Elle n'avait point déjeuné la veille, étouffée par l'émotion, au moment de quitter ses amis de Paris. Elle n'avait pas non plus dîné, la réception de son oncle l'ayant suffoquée. Ses 15 ans avaient faim. « Tu n'as pas besoin de te presser, » dit Belloc. « Si tu n'as pas fini en même temps que moi, tu resteras à table. » Elle prit cela pour une bonne parole, ce qui l'encouragea à risquer une demande qu'elle avait sur les lèvres depuis qu'ils s'étaient mis à table. « Quand voudrez-vous me permettre d'aller voir mon cousin Sylvain » dit-elle. « Voir Sylvain ? Tu veux voir Sylvain ?»« En me faisant promettre de venir chez vous, maman m'a recommandé de voir mon cousin Sylvain. » « Pourquoi faire ? Pour le voir. Vous et lui n'êtes-vous pas toute ma famille ? N'est-ce pas une obligation pour moi, en arrivant, de lui rendre mes devoirs ? Quel devoir ? Tu dois quelque chose à Sylvain ? Mais... Et Sylvain te doit quelque chose aussi, comme moi ? » Elle demeura interdite. Elle avait été élevée dans l'idée que la famille est tout. Combien de fois sa mère, se voyant mourir, lui avait-elle dit « Si tu me perdais, tu ne serais pas seule, tu aurais mes cousins. Ils ne se sont jamais occupés de toi parce que je suis là et que tu n'as pas besoin d'eux. Mais si je disparaissais, tu les trouverais. » Et voilà que son cousin lui disait que la famille n'était rien, qu'on n'a pas de devoir envers le cousin de sa mère, pas plus que celui-ci n'en a envers la fille de sa cousine. Elle eût voulu répondre « Mais à quoi bon ?» Elle n'avait pas la prétention de changer par ses paroles les sentiments de son cousin. Cependant, l'opposition qu'elle rencontrait ne devait pas la faire renoncer à cette visite. « Je voudrais obéir à maman, » dit-elle. « Si ta mère t'a conseillé une sottise, vas-tu lui obéir ?» Elle eut un mouvement de révolte, indignée que son cousin se permît de parler ainsi de sa mère. Cependant, elle se retint. « Oui !» dit-elle avec fermeté. « Si tu es décidée à aller chez Sylvain, pourquoi m'en demandes-tu la permission ?»« Pour n'y aller que quand cela ne vous dérangera pas et que vous n'aurez pas besoin de moi. »« Sais-tu que Sylvain est mon ennemi ?»« Maman m'a dit que vous étiez brouillée, ce qui était un grand chagrin pour elle. » »« J'ai élevé Sylvain, je l'ai fait instruire, je l'ai mis à même de devenir un homme. » Et pour me récompenser, quand il n'a plus eu besoin de moi, il m'a quitté en tâchant de m'enlever mes clients, en baissant les prix pour rogner mes bénéfices et me ruiner s'il le peut. Mais c'est moi qui le ruinerai, lui et sa gueuse de femme. » Disant cela, il donna un formidable coup de poing sur la table qui fit déborder les verres pleins de cidre et sonner les assiettes. Marichette n'osa pas continuer et elle se mit à manger, les yeux baissés, craignant de rencontrer ceux de son oncle. « Que veux-tu demander à Sylvain ?» dit Belloc après un assez long silence. « Je n'ai rien à lui demander. »«
À lui dire. »«
Je n'ai rien à lui dire. »«
Eh bien, alors ?»«
Je dois à maman morte l'obéissance que je lui devais vivante et même une plus grande obéissance encore, » puisque je ne peux pas discuter ce qu'elle veut. Elle a voulu que je voie mon cousin Sylvain. Je vous demande de me permettre de faire ce qu'elle a voulu. » «
Sylvain ne peut rien pour toi. Sa situation est gênée, et d'ailleurs, quand même il serait disposé à faire quelque chose pour toi, sa femme ne le lui permettrait pas. C'est la plus mauvaise peste du monde. » «
Mais je n'ai pas besoin qu'il fasse quelque chose pour moi, puisque vous voulez bien me garder près de vous. »
Elle était à bout d'arguments, ou plutôt elle n'en trouvait qu'un, toujours le même, pour elle décisif.
« Je dois faire ce que ma mère m'a demandé. »
Belloc parut réfléchir un moment, puis fixant les yeux sur elle et la regardant jusqu'au fond de l'âme.
« Es-tu discrète ? » demanda-t-il.
Comme elle ne répondait pas, il répéta sa question qu'elle n'avait évidemment pas comprise.
« Je te demande si tu es capable de garder un secret. »
« Je n'en ai jamais eu à garder. »
La femme de Sylvain, qui est curieuse comme une chouette, va te tourner et te retourner en tous les sens pour te faire dire ce qui se passe ici. Tu dois ne pas répondre. »
« Je n'ai rien à répondre puisque je ne sais rien. »
Elle te demandera à quoi je t'emploie. Tu répondras que je te garde près de moi parce que ta mère t'a envoyé ici, voilà tout. »
« Oui, mon cousin. »
« Surtout, tu ne lui diras pas que je te fais écrire des lettres confidentielles. »
« Non, mon cousin. » car tu dois comprendre que si elle savait cela, elle ne te laisserait pas tranquille avant que tu lui dises ce que contiennent ces lettres. Ce n'est pas à son ennemi qu'on confie ses affaires, et Sylvain est un ennemi. Si tu commettais une indiscrétion, tu sortirais d'ici aussitôt, ne l'oublie pas. Maintenant, quand veux-tu aller à Criquefleur ?
Quand vous voudrez.
Eh bien, vas-y tout de suite, le plus tôt sera le mieux. Tu prendras la voiture de 2 heures.
Si vous vouliez, j'irais à pied.
Il n'y a que 2 lieues, je serais bien aise de marcher.